L'expérience commence. C'est quoi réussir sa vie? À quoi peut-on le mesurer? Cléo Cohen et Jeanne Filion sont diplômées. Elles ont fait des années d'études, des stages, des services civiques, des échanges à l'étranger. Elles ont trouvé des petits boulots, imaginé de grands projets, comme monter leur propre radio ou écrire des romans. Elles ne veulent rien sacrifier des désirs du départ. Elles rêvent encore de réussir leur vie. Elle voudrait surtout essayer de retrouver du sens, possiblement d'être utile. Elle décide alors de quitter Paris, la ville et la vie moderne. Elles ont trouvé une maison près d'Orange dans le Vaucluse. Et là commence, avec lucidité et autodérision, la série qui témoigne d'une arrivée pas tout à fait comme elle l'avait imaginée. Chaque samedi de l'été, nous diffusons les podcasts originaux de l'expérience. Dans le jus d'orange, c'est une série réalisée par Diffy Mariani en 7 épisodes, réunis ce soir.
Tu vas prendre le rond-point là.
Ok.
La... Tu prends deuxième sortie.
Deuxième sortie.
Ok. Ouais. Oula. Vas-y, là, là, là.
Ouais, ok, ok.
C'est sacrément vide. Hein.
Ouais.
C'est mi-beau, mi-moche. C'est le centre-ville, je crois.
Dans le jus d'orange.
Je sais pas si c'est ça. C'est chelou.
Ça fait un peu ville mignonne, mais...
Mais c'est quoi ce truc?
Oh. C'est un avion.
C'est un avion de chasse.
Attends. Immense, mais c'est genre intérieur, quoi.
Attends, je vais chercher ce que c'est.
Je vais faire...
Tu fais la première sortie.
Le député maire d'Orange, Jacques Bompard, a inauguré en présence du commandant de la base aérienne et de nombreux élus la décoration finale du rond-point situé à la sortie d'autoroute Orange Sud.
Putain, le symbole.
Depuis 2010, le Mirage 3 trône à l'entrée de la ville. Le maire s'est félicité de mettre à l'honneur, après le premier char sur le rond-point situé à 1 km en direction du centre-ville, la base aérienne, symbole militaire et économique de la ville.
Donc là, je...
Attention,
ouais.
Non, attention à lui. Là, c'est le local de la Ligue du Sud.
La Ligue du
Regarde,
Sud.
Regarde là-bas, là-bas, sur le truc vert là.
Jacques Bompard.
Ouais. Défendre les gens d'ici.
Oui. Où est-ce qu'on arrive?
Jacques Bompard, maire d'Orange. Né le 24 février 1943 à Montpellier. Nationalité française. Profession, chirurgien-dentiste. Parti politique, Front National, Mouvement pour la France, Ligue du Sud.
En fonction depuis le 25 juin 1995.
Tu fais en gros comme la voiture blanche.
Ok.
Les thématiques principales de la Ligue du Sud sont la sécurité, le combat contre la mondialisation, la revendication du patriotisme, la défense de la famille et des valeurs chrétiennes.
Dans 100 mètres, tournez à droite pour rester sur cours pour Toul. Tournez à droite pour rester sur cours pour Toul, puis tournez à droite pour rester sur cours pour Toul.
Voilà, c'est la carte.
Waouh!
C'est beau,
c'est impressionnant. Hein.
La ville d'Orange est située dans le sud de la France. Deux grands monuments qui reflètent la gloire et l'Empire romain sont toujours présents.
Ah non, mais regarde pas, Jeanne.
Ah, oui.
Dans 600 mètres, prendre à droite sur avenue de l'Arc de Triomphe N7.
L'Arc de Triomphe se dresse à l'entrée de la ville. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, l'Empire romain a cherché à étendre son territoire au nord de l'Europe. Orange a été le théâtre de l'un des combats les plus sanglants pendant la conquête de la Gaule. Les scènes de cette bataille sont taillées dans la pierre de l'Arc de Triomphe.
Au rond-point, prendre la première sortie sur route nationale 7N7. Puis votre destination se trouvera sur la gauche.
Épisode 1. L'arrivée.
Faut-il faire son bonheur plutôt que l'espérer ? Il semblerait qu'on n'ait jamais résolu cette première question de dissertation de philosophie qu'on nous a donnée il y a presque 10 ans maintenant, quand on s'est rencontrés au lycée. Depuis qu'on se connaît avec Jeanne, cette question nous tiraille de façon souvent souterraine, dans les choix que nous avons faits, dans nos angoisses et nos envies. C'est peut-être ce qui a continué à nous lier, à travers les années, malgré la distance géographique parfois, les nouveaux amis, les nouvelles amours. Ce vertige commun, existentiel, est devenu peu à peu plus politique, dirigeant nos choix de vie jusqu'à se retrouver ici, des années après le lycée, réalisant là une sorte de fantasme de jeunesse.
Samantha, Groupama, Méditerranée, bonjour.
Mais pas vraiment là où on l'avait imaginé.
Oui, bonjour madame, je vous appelle pour avoir des informations sur votre assurance habitation.
D'accord, on va regarder ça ensemble. Alors, je prends l'adresse, s'il vous plaît.
Orange.
C'est prévu pour quand, l'entrée dans les lieux ?
Bah, on vient d'entrer, là.
Quand vous me dites « on », c'est que vous n'êtes pas seule dans le logement ?
Non, en fait, on est en colocation.
D'accord.
En fait, c'est une maison, une grande maison.
D'accord.
Il y a 5 chambres... Un salon, jardin.
Alors, votre situation familiale ?
Célibataire.
Vous avez des enfants en charge ?
Non.
Votre profession ?
Donc en fait, je suis plus étudiante. Enfin, j'ai 25 ans, donc... ma situation professionnelle, c'est un peu bizarre en fait. Je viens de finir mes études, mais vu le domaine, c'est pas évident de trouver du travail, en fait. Voilà.
D'accord. Vous dites pas que vous avez fait littérature.
Ah ben si, justement, ouais. Enfin, c'est-à-dire qu'on a fait des études, des super longues études. Hein. Globalement, on est très privilégiés, genre blanche, bobo, grand capital culturel, on a fait des masters et tout.
Tremblement dans la philosophie cartésienne du cogito.
Ça, c'était le mémoire de Jeanne. Moi, j'ai travaillé sur la dialectique de l'être et du paraître dans Belle du Seigneur. C'est un roman que j'adore.
Au début, au baiser, au plaisir de la femme à la bouche de l'homme.
Enfin bref, on a aussi fait des petits boulots à côté, contrôleur mystère SNCF, par exemple.
Est-ce bien éthique de devenir celle qui contrôle les contrôleurs ?
Oui, on a aussi fait de l'animation en colonie de vacances. On a vendu des vêtements tombés du camion.
Pendant que le patron faisait la sieste dans les cabines d'essayage.
Oh ! Mademoiselle ?
Oui, on a aussi été serveuse dans un restaurant près de la fac.
Dans lequel venaient déjeuner nos professeurs émérites, qui n'étaient pas capables de reconnaître leur élève derrière le tablier.
On a créé des questionnaires de culture générale pour une émission de divertissement.
En prenant en compte que les candidats devraient y répondre pendant un combat dans la boue.
Salut tout le monde, j'espère que ça va bien.
Il y a eu le secrétariat d'un cabinet médical d'épilation au laser aussi.
Moyennant des épilations gratuites pendant les heures creuses.
Très bien, oui.
Attendez. On a eu plein de projets en parallèle en fait. Monter un spectacle sur la vieillesse avec des échappées d'EHPAD, aller à Cannes avec un film autofinancé sur le parallèle entre croque-mort et livreur à vélo, monter une radio pirate, faire du théâtre d'appartement pirate, écrire et jouer dans une comédie musicale. Publier un roman aux éditions de Minuit sur le premier amour, devenir danseuse.
Célèbre et autodidacte.
Être co-auteur d'une BD hilarante.
Oui, écoutez mademoiselle, j'entends bien, mais on s'éloigne un peu là.
Oui, mais on a eu plein de dilemmes en fait. Faire un stage de communication dans un théâtre ou commencer des études de sociologie. Aller bosser à la Biocop ou retourner vivre chez nos parents. Rejoindre ceux qui luttent à Notre-Dame-des-Landes ou faire la page Facebook d'une émission de France Culture. Allô ? Allô ? Madame ?
Épisode 2. Le monde ou rien.
Ça, je vais ça pour l'instant. Ça va pas se faire. Lève, ouais.
Et finalement, on est là. Si on avait eu une belle maison de famille dans les Cévennes, on s'y serait probablement installé. Comme ce n'était pas le cas, il a fallu chercher. Dans le Gard, nos garants n'étaient pas convaincants. En Ardèche, il fallait laisser la maison en mai pour que les touristes puissent louer.
L'ironie du sort, finalement, c'est de se retrouver dans ce décor. Une zone périurbaine bizarre, un paysage plat et aride, et l'extrême droite, victorieuse depuis 25 ans. Cléo me disait dans une lettre qu'elle m'écrivait l'année de nos 17 ans. Chez nous, il y aura du Brassens à longueur de journée. Plein de pots de fleurs et beaucoup de vin. Des bains de mousse, de l'encens, des cigarettes. On travaillera studieusement parfois. On fera de grands dîners souvent. Des post-it sur le frigo, des photos partout. On rigolera beaucoup et on se fera des cadeaux. On aura des engueulades passionnées. Des goûters du jeudi tous les jours. De la glande devant la télé. On dormira en vieille culotte. Et alors ? Le meilleur est à venir en fait. Patience. À nous, à la jeunesse, à l'avenir. Cléo. L'idée de réussir sa vie, telle qu'elle est construite socialement, est étroitement mêlée à celle du travail. Concilier le temps du travail et le temps de la vie. Gagner assez d'argent pour être indépendante au prix de boulot peu enthousiasmant. Affronter les conflits intérieurs éthiques, politiques, qu'implique le monde du travail et ses compromis.
Naïvement, ce qu'on voudrait, nous, c'est être satisfaite,
comblée,
joindre les deux bouts,
se faire plaisir,
ne pas renier nos valeurs,
ne pas se faire exploiter,
être fière de nous-mêmes.
25 ans et on a l'impression que le temps passe et pèse sur nous et que désormais il faudrait trouver une place de façon urgente.
Choisir qui on est aux yeux des autres et de nous-mêmes. Nous, ce qu'on a décidé pour nous-mêmes, c'est de faire un trou dans notre CV. Avec les peurs et les doutes qui nous habitent. Notre tentative en est une parmi d'autres. Quitter Paris pour aller à la campagne et refuser le travail salarié.
Salut mes petites poules, petit message que je vous envoie depuis la rue Lafayette puisque j'ai raté le bus.
Salut les RMistes, ça va comment chez vous là en ce moment?
Alors les Martin Luther King de l'écriture inclusive, comment ça va?
Bonsoir Jeanne, j'ai gonflé les pneus de la voiture, j'ai pensé aussi que ce serait bien que tu le fasses de temps en temps, surtout que vous allez sur les routes... de campagne, hein, voilà.
Salut Cléo, écoute, c'est Joséphine, j'ai entendu parler d'un plan inondation en région Hautes-Alpes.
Toi, ça va comment à la Cambrousse, sinon?
Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop les pieds sous l'eau à Orange, et puis envoie-moi des nouvelles, je t'embrasse.
Non, mais la maison, elle est vraiment trop belle, quoi.
Coucou ouais. Chérie, c'est maman, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir comment ça va là-bas, ouais, si là, tu t'ennuies pas trop, si tu trouves de quoi...
Là-bas, là.
Des choses à faire, tout ça, voilà, je t'embrasse très très fort, bisous. Et voilà, voilà. Et on a reçu les APL aujourd'hui, donc on est super contents.
Oui, Jeanne, je t'appelle parce que tu as oublié ton écharpe hein, lorsque tu es venue l'autre jour. Bah, j'espère que tu en as une autre parce que c'est quand, encore l'hiver. Hein.
Ouais, c'est vraiment juste à côté la rivière en fait. Ouais. Tu vois, on pourrait se baigner.
Et puis la chambre là où tu es, il y a un radiateur aussi.
On va être bien.
Coucou les Cédric Héroux du potager.
Donc. Ben, couvrez-vous bien. Hein.
J'espère que les oranges vont bien et que les tomates sont en train de rougir.
Mangez bien, bien, bien chaud aussi, hein, surtout. Voilà. Bon, je vous embrasse.
Les bobos trouvent qu'on pousse un peu le bouchon. Passer de l'autre côté du périph, c'est tendance, mais à l'autre bout de la France...
Ah, orange.
Bah ouais, mais on a trouvé nulle part ailleurs, en fait.
Les néo-ruraux qu'on est des imposteurs. On passe plus de temps derrière nos écrans qu'à questionner les vertus de la terre de Diatomée. Les militants qu'on a mal choisi notre territoire. L'Ardèche est remplie de camarades, mais le Vaucluse n'est pas vraiment fréquentable. Nos parents que ça va nous passer.
Ok, vous êtes jeune, mais enfin franchement, 7 ans d'études pour finir dans un trou paumé...
Et les conseillers Pôle emploi qu'on ne survivra pas longtemps.
L'Île-de-France, ça grouille d'intermittents du spectacle, mais en PACA, vous êtes mal barré.
Maintenant qu'on est là, on se dit que quitte à être à la campagne, autant essayer de mettre la main à la pâte, dans une perspective vaguement néo-rurale qui, en ce matin d'automne, nous enchante.
On a quoi comme graines là?
Tomates cerises et aubergines violettes de Barbantane.
Ça donne trop envie, aubergines.
Repiquage des plantules en godets et mise en place des godets au jardin en mai-juin.
On comprend rien.
De toute façon, en fait, c'est pas la saison.
Bah, du coup, on fait quoi?
Des patates, peut-être.
Là, faut qu'on en profite, vu qu'il fait beau. Ouais, les patates.
Ça fait tout le temps, les patates.
Aïe, putain! Ah, il y a tout dans l'œil. Montre.
Ah ouais, tu t'es mis bien, là.
Tu veux un verre d'eau?
Non, je crois que j'ai fumé une clope plutôt.
Dans le jus d'orange.
Salut Cléo.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Bien.
Comment allez-vous?
Épisode 3.
Salut.
Ne pas faire de vagues.
Tu veux boire un café?
Moi, je veux bien, ouais.
Ouais,
volontiers.
Okay.
On a demandé à Gérard, qui a travaillé à la mairie, de nous raconter l'arrivée de Jacques Bompard au pouvoir et concrètement ce que cela a suscité comme réaction et comme résistance à l'époque. Ça, c'est Cécile. Notre voisine immédiate et propriétaire,
bon, je vais prendre le café.
Chez qui on a pris l'habitude d'aller boire le café.
À Orange, c'était toujours droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. C'était un peu ça. Et puis, à la suite d'une triangulaire, Bompard qui est passé.
Il a réuni le personnel, pas en entier, dans la salle du conseil. Il y a des gens qui sont mis devant, et puis beaucoup, je dirais pas la plupart, se sont mis complètement au fond. Donc déjà, ça a jeté un froid. Et puis il a dit une phrase qui était quand même assez définitive, c'est « Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi ».
Je pense que ça a changé vraiment au quotidien pour tout le monde. C'est l'impression d'être dans un film de la guerre, on voyait les collabos et les résistants. C'était vraiment étonnant parce que du jour au lendemain, donc en fait, on s'est aperçu que des gens chez qui on allait régulièrement prendre un pot, chez qui on allait prendre un petit repas, midi, le boulanger, le pâtissier, que ces gens-là étaient franchement d'extrême droite et radicalement d'extrême droite.
Ça a commencé là, ouais, la zizanie, l'espèce de... Oui, tout le monde surveillait un peu tout le monde.
Je me souviens aussi, il y a un mouvement qui s'est tout de suite monté, qui s'appelait Alerte Orange. On se retrouvait au même café, qui était tout près de la mairie. Et ce dont je me souviens, c'est principalement le neveu de Bompard, devenu président de l'office de tourisme, qui passant devant le café où on était, crachait.
Et une fois, je me retrouve au café, il y avait un gars qui était professeur et qui s'est parti d'Alerte Orange, ce truc d'opposition. J'étais tout de suite convoqué au cabinet du maire, par le maire, pour me dire qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez remis des documents Donc, ah oui, non, mais ça en fait du dégât, ça. Ne pas aller à être café parce qu'on est vu avec un tel.
En fait, l'année où Bompard a été élu, il a fait dans l'année même, je crois, une grande fête médiévale. Une grande fête médiévale à Orange. Il n'y a quand même pas grand-chose au point de vue patrimonial, au point de vue histoire, sinon l'histoire de Guillaume d'Orange, a brillé par son passé médiéval quand même. Eh bien si, il a organisé une fête médiévale. Et une fête médiévale sur la colline qui surplombe Orange, à laquelle est adossé le théâtre antique. Et alors, le méchoui a eu lieu, parce que c'était grande fête méchoui. Méchoui, vous attendez un mouton. Eh bien, non, ce ne fut pas du mouton, ce fut du cochon. Voilà. Et il y a eu aussi ce geste absolument incroyable. Il y avait là-haut une statue 19e, fin 19e, qui représentait un croisé, et c'est Rambaud II d'Orange, un des premiers seigneurs d'Orange. Voilà. Donc il a fait descendre cette statue pour la mettre sur la place principale de la ville, place de la République, et se croiser, très noble ma foi, ouvre maintenant, avec son épée, ouvre les bras pratiquement à la République. Donc c'est un symbole assez fort, surtout parce qu'il est croisé.
Moi, je suis un de ceux qui se sont syndiqués à la prise de, des fonctions de la nouvelle, j'allais dire prise du pouvoir, mais on peut le dire, de la nouvelle municipalité. Donc, il y avait quoi ? Il y avait un syndicat FO qui était assez inféodé, oui, plomb-plomb. Une section CGT qui était un peu plus forte. Et puis on a été plusieurs à créer une section CFDT. Il y avait deux chargés de mission, il y avait trois bibliothécaires, l'architecte, qui sont tous partis. Donc je me suis retrouvé pratiquement seul.
La peur, les gens avaient peur. C'est une petite ville, Orange, et les gens avaient peur. Peur de perdre le boulot, peur d'être dénoncé, parce qu'il y a eu bien sûr la chasse aux sorcières. Donc tous les chefs de service, pratiquement tous les chefs de service de la mairie sont partis en un an, à peu près tous. Parce que sinon, de toute façon, c'était invivable.
Oui, pour la grande majorité des employés, enfin des agents de la collectivité, ça a été faire profil bas. Hein. Ça, ne pas se faire voir, ne pas faire de vagues. J'ai eu le tort de ne pas suivre cette recommandation qui aurait été utile pour ma carrière.
Vous savez aussi qu'il avait supprimé tout ce qui était association sociale, socioculturelle. Voilà, ça vide aussi, hein. Donc c'est pas seulement eux qui ont choisi de partir. C'est quelquefois obligé de partir également. C'est ce qui m'est arrivé à moi.
J'arrivais dans un bureau, un agent arrivait, ordre du maire, et on me retirait le téléphone. Ce qui fait que je n'avais pas de téléphone. Pas de téléphone, pas d'ordinateur. Pendant quelques années, j'ai changé 11 fois de bureau. J'arrivais, il n'y avait pas de meubles. J'ai passé des années avec mes documents dans des cartons. C'est... On ne peut pas se rendre compte de... C'est pas obligatoirement physique, c'est le pire, c'est le diffus.
J'avais quand même peur profondément, certainement, puisque j'ai rêvé que j'étais dans la maison et que j'étais avec beaucoup d'enfants, toute seule, et tout d'un coup, on a vu arriver en parachute Bompard et en treillis militaire Bompard et son neveu Magnin. Donc en fait, je devais avoir quand même une grosse peur. Et donc moi, j'étais là avec tous ces enfants que... Comment ils ont pu venir là ? Parce que là, c'est un peu le bout du monde, ici, cet endroit, n'est-ce pas ? Enfin, Orange, personne ne connaît. Voilà. Donc, comment ont-ils pu arriver là ? Voilà.
C'est pas parce que ça fait pas de bruit que ça fait pas de mal, quoi. Et même, c'est pire, parce que les gens s'endorment, les gens se voient plus. Aller à une manifestation, par exemple, même si elle n'a aucun rapport avec la municipalité... Ben les gens se l'interdisent. Faut surtout pas faire de vagues. Surtout pas faire de vagues. Tout ne se chiffre pas dans une ville. Il y a la vie.
Il est vrai que c'était très difficile pour moi d'y retourner, parce que je pense que j'ai quand même essayé de donner pas mal de moi dans mon travail dans cette ville. Et que c'est difficile. C'est que lorsqu'on retourne dans des lieux... On a aimé des gens qui n'existent plus.
Il n'y a pas de dynamique, c'est ça le problème. Il n'y a pas de dynamique. Il n'y a rien, rien. C'est un monde mort, complet.
Ce que je pourrais peut-être dire, c'est une théorie, mais je pense que c'est aussi la réalité, c'est que je pense qu'effectivement, depuis Bompard, ce ne sont plus les mêmes Orangeois. Bon, on reste toujours les anciens commerçants, etc., un petit fond. Mais réellement, Orange a augmenté en nombre d'habitants. Et je pense que c'est dû à tout ce nouvel arrivage et que des gens qui choisissent Orange, après Bompard, c'est un acte politique aussi.
Maintenant, la machine est en route avec cette liquéfaction, une autocensure, un désengagement. un découragement, des gens qui ne l'étaient pas au départ. Mais ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Le découragement, ça compte, hein. C'est terrible. Je vois pas ce qu'il y a à faire. En tout cas, moi je vois pas. J'aurai 20 ans, si. Je verrai. J'ai plus envie.
Le calme, quoi.
Épisode 4. La tyrannie de la vérité.
Est-ce que tu penses qu'on peut marcher sur les berges de la rivière? De faire une balade de l'autre côté, tu vois.
Oui, on peut la traverser.
Ouais, là où il y a les chasseurs.
Peut-être qu'on peut la traverser à pied. Quoi.
Oups.
Yo.
Salut.
Wesh, j'ai encore rêvé de Jack Rumba.
Et en plus, la voiture est en panne. La voiture est en panne.
La voiture est en panne.
La voiture est en panne. Putain, la voiture est en panne.
La voiture est en panne.
Ok, bah du coup, je vais aller faire les courses à pied.
Le champ de vigne, le champ de fleurs jaunes et bouleaux morts sur le sentier, les maisons en béton des voisins, ah oui, le petit ponton là qui mène à la rivière, les canisses sèches qui ploient, la maison au bord de la route avec ses chiens jumeaux et son allure de préfabriqué texan, la départementale. Le pont sur lequel passe le TGV. Les entrepôts toujours vides d'Azra Viande. Les chiens qui aboient. Le terrain vague. Les fruits jaunes fluo bizarres, comme des énormes citrons croisés avec des pamplemousses sur le sol. À la maison abandonnée avec le palmier qui pousse dedans. La casse, son odeur d'essence. Les deux immeubles roses pâles qui ont brûlé et qui se tiennent debout, vides.
Alors, votre programme, identité, efficacité, sécurité, localisme. Est-ce que ça, pour vous, c'est une gestion de bon sens?
Exactement. Une gestion de bon sens, c'est une gestion qui défend l'intérêt commun des Provençaux.
Bon, demain, qu'un président provençal puisse chanter Mireille à l'Élysée, ou que l'algérien soit la seule langue à laquelle nous laissions cet espoir.
Alors, il paraît que je favorise l'importation. En tout cas, je ne fais rien pour favoriser l'importation des réfugiés. Je suis totalement opposé à l'invasion du pays par une population de rentrée.
Si l'insécurité a régressé à Orange pour devenir la ville la plus sûre de Vaucluse,
le chômage, le traitement du chômage, ce n'est pas une compétence municipale.
Mais la parole est moi, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole.
Je voulais laisser baver. Alors laissez-moi baver. Alors j'ai noté que vous ne comprenez rien. Ah, mais ça, on le savait. Mais ça, c'est pas notre faute. D'une queue de cochon, on ne fait pas une aigrette. Ah, c'est ma vieille maman qui m'a appris ça, elle a raison. D'une queue de cochon, on ne fait pas une aigrette.
Putain, j'ai encore rêvé de Jacques Bompard!
Pour se rendre à pied au centre-ville, il faut marcher le long d'une départementale très fréquentée, pendant 45 minutes. Dans la cité de Fourche, près de chez nous, excentrée, avant, il y avait une boulangerie, une boucherie, un bistrot.
Aujourd'hui, les commerces sont fermés et tout le monde va à Intermarché. Parfois, on peut voir dans le hall de l'enseigne des vieux messieurs réunis pour boire leur café dans des gobelets en plastique, sous les néons agressifs, au milieu du vacarme des spots publicitaires crachés par les enceintes du magasin. Il faut dire que le maire, Jacques Bompard, a consacré beaucoup d'énergie à isoler et stigmatiser les habitants de ce quartier pauvre, du reste de la ville, désormais nettoyé. Allô, ça va ? Oui, je voulais juste vous dire, tant qu'on est à Orange, on va en profiter pour passer à la médiathèque. Ok, bisous.
La bibliothèque d'Orange sous contrôle de la mairie Front National. C'est le constat de l'inspection générale des bibliothèques de France. La mairie, écrit l'inspecteur, contrôle la liste d'achat, élimine des titres selon trois critères principaux. Les thèmes traités, des livres sur le racisme et le rap ont été écartés jusqu'à la semaine dernière, la vision politique de l'auteur, ou encore l'aspect mondialiste de l'ouvrage. Ainsi, contes africains et maghrébins sont désormais limités en rayon. Une situation qui pourrait remettre en cause le projet d'une médiathèque.
Il faut faire une médiathèque à Orange, c'est nécessaire. Mais l'État, qui donne de l'argent pour cette médiathèque, ne peut en donner que s'il est sûr qu'il n'y aura pas de mainmise du maire sur l'acquisition de livres.
Le cosmopolitisme ou la France, l'idéologie cosmopolite, voilà l'ennemi, génie de l'Occident. Notre ennemi, le capital, histoire illustre fraîche, notre seule patrie, qui a peur de l'islam, la poudrière du moyen d'être français. Dissidents de l'Action française, vaincre le tout cercueil islamique, pour un fini suicide française coloniale, bûcher des vaniteux. De quelle couleur sont les vrais ennemis de l'Occident? Langage de vérité, la fracture identitaire, et si on bien reste la diversité? Une histoire de la lampe de bois, la tyrannie médiatique, du bonheur d'être réac, information et désinformation au Moyen-Âge. La désinformation et le journal, le 1940-1945, année érotique. Manuel de la politique constituée, la revanche des mâles, de la guerre des malheureuses. Dictionnaire de la réinformation. Les ravages de la désinformation. La France orange mécanique. Dans le jus d'orange.
Là-dedans. Les
patates. Épisode 5. Temps perdu, temps retrouvé.
Je vous renvoie un petit message de fin de journée en direct du quai du RER de Gagny, RER E, puisque j'ai raté le RER de 15h55.
Et après, on est allé à un truc à Saint-Michel, dans un bar, quoi. C'était hyper mondain. Enfin, tu vois, mondain, bobo, un petit peu, quoi.
Ça, c'est le bruit de la ligne P, le transilien qui passe depuis Shell vers Gare de l'Est.
Clairement, j'étais mal à l'aise parce que je n'avais rien à dire à personne.
Sinon, j'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, il fait beau à Paris, pour une fois. J'imagine que ça ne vous impressionne pas.
Oui, chérie, c'est papa. Écoute, je viens de tomber par hasard sur une annonce dans le journal pour une maison à louer à Montreuil. Alors j'ai pensé que ça t'intéresserait peut-être parce que c'est... Bon, Montreuil, c'est en même temps la campagne.
Coucou. Je te fais un petit update avant d'aller à la salle de sport. Bon, ça va en fait. Je sais pas, j'ai pas grand-chose à raconter quoi parce que... Je sais pas trop quoi faire en fait. Enfin, je sais pas quoi faire mais... Je suis toujours un peu dans un flou quant à mon avenir quoi.
Oui, salut chérie, je pensais à toi là, j'espère que tu t'ennuies pas trop, vous trouvez des trucs à faire quand même. Bah écoute, tiens-moi au courant, je t'embrasse chérie, courage.
Bah alors là, je suis trop contente d'être en vacances, ça fait trop de bien. La dernière semaine, elle était hardcore, j'en pouvais plus, vraiment j'étais un zombie.
Bonjour chérie, c'est mamie. Voilà, comme ça tu peux entendre ma voix. Je t'embrasse chérie, si tu as envie de m'appeler, tu m'appelles. Au revoir mon cœur. Bonne journée. Et explique-moi un peu ce que tu fais comme boulot. Salut.
Agent d'accueil polyvalent, CDD vacances scolaires. Artiste, animatrice, atelier de peinture, freelance. Rédactrice web, stage évolutif en emploi. Chargée d'accueil, CDD. Stagiaire communication, stage. Assistant marketing web, alternance. Assistante vidéo, stage. Médiation culturelle, service civique. Journaliste print, stage. Assistant chef de projet numérique, stage. Community manager, contrat de professionnalisation, stagiaire en billetterie, stage, assistant de coordination, costumière, stage, CDD.
En tant que bénéficiaire du RSA, je dois me rendre tous les mois au centre social pour pointer, en plus de mon actualisation Pôle emploi. Chaque département met en place ses structures propres pour s'assurer que les bénéficiaires du RSA sont encadrés et contrôlés. Lors de mon premier rendez-vous au centre, j'ai été stupéfaite par le vocabulaire coercitif et infantilisant employé sans complexe par la structure.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez rendez-vous ?
Oui.
Je vais prévenir ma collègue.
Ah, merci. Le département me fliquait, voulait nettoyer son territoire des RSistes pour avoir une bonne image. On m'a parlé de droits et de devoirs, de sanctions immédiates pour les assister au moindre rendez-vous manqué, d'algorithmes sur le site de Pôle emploi qui contrôle les connexions régulières afin de s'assurer que la recherche d'emploi est tangible, etc. Mais je fais pas rien, vous savez.
Non, mais je sais, je comprends. Simplement, les activités que vous faites, elles sont pas rémunérées. C'est pas normal, je suis d'accord. Hein.
Mais au fur et à mesure des rendez-vous et de nos discussions, j'ai réalisé que ma conseillère était tout aussi lucide que moi sur le monde du travail et la mascarade que constituait cette recherche fictive d'emploi.
Entre nous, de toute façon, j'attends vous dire d'aller bosser au McDo, ici, y a pas de boulot. Le département nous met la pression pour qu'on force le retour à l'emploi, mais il n'y a pas d'emploi. Tout le monde le sait. Il n'y a que des trucs précaires pour des gens qui ne sont pas qualifiés. Les gens en ont marre, moi je les comprends.
Bon, bah merci beaucoup.
Au revoir.
Rendez-vous le mois prochain.
La journée type d'un demandeur d'emploi efficace. Ou l'art de booster votre recherche d'emploi. 7h45. On se réveille par une petite séance d'exercice à jeun. Des études prouvent que le sport au réveil permet de booster votre motivation. 8h30. Sous la douche, on profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et nos envies. 8h45. On avale un petit déjeuner copieux et on boit son café sur le balcon. L'objectif, profiter de la lumière du jour, antidépresseur naturel. 9h15. C'est parti pour une recherche efficace. Ciblage entreprise, adaptation des candidatures, réponse aux offres, relance des employeurs et intérim, candidature spontanée, relecture des lettres de motivation, mise à jour du CV. Midi. On profite de sa pause déjeuner et on se relaxe. 13h. On prend une heure pour répondre à des petits boulots. Mission d'intérim, CDD, postes qui ne correspondent pas à nos aspirations, mais qui nous permettront de gagner de l'argent. 14h, c'est l'heure de prendre une pause bien méritée. Profitez de 2 heures juste pour vous. Il est important de savoir se faire plaisir et se détendre. Vous pouvez également vous investir dans une association. 16h, 1 heure pour réseauter. Envoyez des courriels à vos contacts LinkedIn. Prendre des nouvelles, mais aussi savoir si des postes sont à pourvoir dans leur entreprise. Entretenir un bon réseau est toujours important pour sa carrière. 17h30, fin de journée. C'est le moment de se sociabiliser un peu. Il est important de rester en contact avec sa famille, ses amis, pour ne pas rester seul dans sa recherche. Signé, Pôle emploi.
Il est difficile, malgré notre choix de vivre ici comme on vit, de lâcher prise par rapport à l'injonction ancrée en nous de bien occuper notre temps.
Bien occuper notre temps.
Cette catégorie-là de pensée est tellement fondamentale qu'il n'est pas aisé de la faire tomber. Régulièrement, on zone sur Profil Culture au cas où un job de rêve s'offrirait.
Au cas où.
Au cas où.
Ici, on ne travaille pas, mais on fait. Quelle valeur à se faire pour nous et aux yeux des autres? Comment nous l'approprier et parvenir à l'assumer? Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade de l'expérience, on peut faire état d'une toute autre disponibilité. Au monde, aux autres, à soi-même. On tente d'expérimenter ici un autre rapport au temps. Une balade, une lecture enthousiasmante, une discussion, un bon repas préparé, et la journée parfois est déjà passée. Depuis qu'on est installé, on a l'impression que le temps passe à toute vitesse, et en même temps, il est plein d'activités étirées. Le temps perdu est-il le temps retrouvé ?
Est-il le temps retrouvé ?
Sans contrainte, le plaisir est là, immense, mais toujours légèrement teinté de culpabilité.
Bienvenue au 3949, le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi. Composez maintenant les deux chiffres de votre département. Attention, vous avez choisi le département Vaucluse. Tapez 1 pour confirmer. Vous êtes demandeur d'emploi. Composez les 7 chiffres de votre identifiant. Sinon, appuyez sur la touche étoile.
Épisode 6. Il est bon de rêver.
Nous vous remercions de patienter. Un conseiller Pôle emploi de votre région va prendre votre appel.
Chers téléspectateurs, bonsoir. Comme d'autres personnalités d'extrême droite, Jacques Bompard, maire d'Orange, fait aussi sa crise politique existentielle.
Orangeois, orangeoise. Depuis plusieurs années déjà, je ne peux que déplorer la façon qu'ont les gouvernements successifs, dits modérés, d'insidieusement s'approprier les idées que je défends. Voilà qu'ils les assument, les banalisent, les intègrent à leur politique et à leur discours. Mes crispations identitaires, ma nostalgie réactionnaire dangereuse, ma violence vont finir par devenir mainstream. Si ça continue.
Même dans la capitale de la gauche bien pensante, que je conspue.
Nous vous remercions de patienter. Un conseiller Pôle emploi de votre région va prendre votre appel.
Avant, nous, l'extrême droite, hein, nous étions les seuls fous, les vrais méchants. Aujourd'hui, la droite, la gauche, le centre, ne serait-il pas en train de le devenir? Que dire de la loi anti-casseurs qui donne au préfet le pouvoir d'interdire de manifester par décision administrative, de l'armée envoyée contre les civils à plusieurs reprises, hein, de l'usage du LBD en dépit de la condamnation du Parlement européen et de l'ONU, du silence quand la Croatie était bloquée en pleine mer, de la loi immigration, de la police frontière. C'est une folie. Si ça continue comme ça, les gens vont finir par se révolter. Tout renverser. Les islamo-gauchos, les gauchias, les zadistes, jusqu'au monsieur tout le monde. Ils vont construire des cabanes partout, se révolter pour de vrai, reprendre le pouvoir. Et ma commune, mon royaume, Orange va tomber. Orange va tomber.
Salut.
Comment vas-tu?
Bah, ça va et toi?
Ouais, écoute, Jeanne touche le RSA.
Non.
Je te jure.
Alors là.
Ouais, c'est incroyable.
Bravo.
On n'y croyait plus et surtout qu'elle était mal partie, elle voulait peut-être faire un CDI, enfin elle avait des. Tu vois, on était un peu angoissés, mais là ça y est.
Ah c'est bien, écoute, elle va pouvoir faire plein de trucs. Elle...
Et on va fêter ça ce soir avec les grands-parents et tout, ça va être la grande fiesta. On leur a pas dit, ça va être la surprise.
Ah c'est génial. Elle touche là le premier.
Ça y est, elle commence le RSA ce mois-ci.
Oh, c'est génial.
C'est parti là.
Oh là, là
ça
là.
Peut durer parce qu'elle est déterminée là.
Bon bah écoute, tu l'embrasses très fort, tu
d'accord.
la félicites.
Ouais, bah, bien sûr.
Vraiment, tu dis bravo, bravo d'avoir tenu et d'avoir. Voilà, tout s'ouvre, ça y est, c'est parti, quoi.
Exactement.
Je suis contente.
Allez, ciao.
Salut. Ouais, bon après-midi, bye.
Magnifique ce potager. Félicitations. Magnifique. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. C'est des tomates. Félicitations.
J'en ai l'eau à la bouche. Le rouge des tomates, le brun de l'aubergine, l'orange de la
carotte. Waouh, magnifique. Oh là là, cette tomate. Oh, regarde la grosse salade, comme elle est grosse.
Waouh, bah dis donc, un potager.
Superbe, hein. Ça, c'est quoi?
Sinon, je pouvais faire pareil.
C'est du thym, c'est du laurier. Oh là là, super, magnifique. Oh, extraordinaire ce jardin. Oh!
Bonjour.
Oui.
Oui, bonjour. Je vous appelle pour savoir si je pouvais avoir une. J'ai besoin, en fait, ma mutuelle me demande une attestation.
Pôle emploi vous remercie de votre appel. Au revoir.
Mesdames, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va.
Vous désirez?
Épisode 7. Épilogue.
Et voici mesdames. À votre service.
Merci. Au bar des amis, où on a pris l'habitude d'aller, surtout pour l'accueil chaleureux de Didier, on a commencé à prendre nos marques. On y a rencontré Fanfan, qui a quitté Orange, puis y est revenue. Elle passe ses week-ends dans la cave de Boris, où se réunissent les mélomanes en tout genre. Elle nous a emmenés sur la colline qui surplombe la ville, où résonnent encore ses souvenirs de jeunesse.
Un acacia, je sais pas. Ou un pin. Non, c'est un pin. On peut monter sur cet arbre-là.
Ou sur celui-là.
Regarde, il y en a un qui s'asseyait là. Un là. Puis là, tu vois, ils ont dû couper. Même là. Parce que j'ai le souvenir qu'on montait à plusieurs.
T'as des vues sur la Seine. Nous, on était une petite bande de 10, mais il y en avait un petit peu de partout, là. Et on a vu des trucs splendides. Et en plein air, en plus, voilà, regarde. La nuit, c'était, tout est allumé, là. Les fenêtres des maisons, les lampadaires, parce que les concerts, ça se passait le soir. Hein. C'était juste magique. Hein. Je suis émue en disant... C'est des groupes qu'on n'aurait jamais pensé croiser, quoi. Ils arrivaient d'Amérique, hein. Les Cure, Dire Straits et Phil Collins, c'est comme les Rolling Stones, enfin je sais pas, toi. Voir Phil Collins, c'était l'Atlantique, tu vois, c'était comme voir Freddie Mercury à Wembley. C'était juste pas possible, quoi. Voilà, ça se passait comme ça. Tu peux plus faire ce qu'on faisait, non, là c'est interdit, t'as les flics qui te font descendre. Hein. Tu n'as plus le droit de monter sur la colline quand tu as un concert. C'est dommage. Hein. Donc non, maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui viennent. Des groupes internationaux, il n'y en a carrément plus. Et puis des chanteurs français. Moi, le dernier en date, c'est Nougaro, quoi. Julio Iglesias, où j'ai mené ma mère. Sardou aussi, il y a Sardou aussi qui est venu. C'est pas pareil. Après, moi, je pense que le temps où j'ai pas été là, effectivement, le changement de municipalité a fait que la culture a un petit peu disparu, quoi. Et là, ça recommence à se mettre en place par des gens à titre individuel, comme Boris, qui cherche à attirer des jeunes qui ont envie de faire de belles choses. Mais je crois que les gens étaient déçus, oui. Voilà, c'était plus ce mouvement culturel qu'il y avait. Et les commerçants, ils se plaignent pas mal du manque de monde. Il faut la faire vivre, hein. Une ville, il faut que ça vive. Et pour que ça vive, eh ben, il faut faire les choses pour, quoi. C'est comme de partout. Hein. Alors là, t'as l'église de Saint-Florent, juste en face. Ça, c'est les cités, je pense que c'est Fourchevieille, peut-être. Alors là, tu as le théâtre, tu dois avoir le bar du théâtre. Après, la petite maison bleue, là-bas, ça doit être dans la rue... C'est dur de se repérer comme ça.
Quand l'option de s'installer à Orange s'est présentée, la question a beaucoup divisé entre nous. Quel sens cela aurait d'aller s'installer en territoire dit ennemi ? Comment s'investir ici sans aucun de nos repères, avec la méfiance et la suspicion qu'implique le pouvoir politique qui se ressent au quotidien et qui semble trouver des appuis solides dans son électorat fidèle depuis plus de 20 ans ? De quoi se nourrir dans un territoire asséché par une politique qui n'épargne aucun domaine et fait fuir ceux et celles qui auraient des initiatives dissonantes ou qui se sont lassés d'un combat perdu d'avance.
La maison est à égale distance d'Orange et d'un village provençal charmant et bien plus fréquentable. Pour accepter d'être là, une des solutions aurait été d'ignorer la proximité de la ville d'Orange, de faire comme si elle n'existait pas. Nous avons plutôt choisi de faire avec, guidés par la curiosité de voir, entendre, sentir les gens et les choses ici, indépendamment du vote, première fenêtre sur ce territoire.
Ce qu'on constate au fil des mois, c'est qu'on échappe, peut-être pour la première fois, à l'entre-soi. On est là où on ne nous attend pas. Si on avait choisi de rester en ville, ou de s'installer dans un village d'extrême-gauche dans la Drôme, ou encore de partir tenter l'expérience à l'autre bout du monde, on aurait pu se raccrocher à un cadre, une case confortable et rassurante. Ici, personne ne sait bien ni qui on est, ni ce qu'on fait, et ça n'a pas l'air de déranger. Mais nous, on ne cesse d'être tiraillés,
d'essayer de trouver du sens.
Des sens à notre présence là, ici, maintenant. Pour pouvoir assumer d'être,
au moins pour un temps,
dans le jus d'orange.
Et l'Arc de Triomphe, il est où alors ?
Je sais pas si on va le voir d'ici là.
Il est là, je le vois.
Ah ouais ?
Juste en face. Il y a, tu vois, le truc de travaux avec le voile vert, là, devant les fenêtres.
Oui.
Donc chez nous, c'est là-bas, en fait.
Ouais, bah c'est vers Fourchevieille.
Ah ouais, c'est ça.
Avec
Pauline,
Pierre,
Louise,
Joséphine,
Renaud,
Tania,
Michel,
Mamé,
Prunella,
Lémi,
Antoine,
Camille,
Juliette,
Dia,
Cécile,
Gérard,
Fanfan,
Didier
et Jacques Mazeran. Avec le groupe Alter Ego à la cave de Boris.
Coordination Aurélie Charon
et Inès Duperron.
Prise de son
Hélène Langlois.
Mixage
Bruno Mourlan.
Réalisation
Diffy Mariani.
Une série de Cléo Cohen
et Jeanne Filion.
Vous venez d'écouter la série Dans le jus d'orange de Cléo Cohen et Jeanne Filion, réalisée par Diffy Mariani. Et justement, Cléo et Jeanne sont au téléphone avec nous depuis Orange. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous raconter, depuis votre maison à Orange, où on vous a entendu ce soir, d'où vous est venue cette envie de raconter votre arrivée là-bas et puis d'imaginer cette écriture en mêlant la fiction?
Alors en fait, en arrivant ici, nous, on a débarqué dans un territoire qu'on ne connaissait pas du tout. On ne connaissait que de réputation. Et nous a semblé, au fur et à mesure de notre installation qui s'étalait un peu, que cette histoire valait le coup d'être racontée au moment où on devenait des habitantes, en fait, de cette ville, nous aussi, de raconter ce qui la traversait, ce qui nous traversait en étant ici, et l'écart aussi entre le lieu et qui on était. Et voilà, et pour ça, si tu veux, Jeanne, parler du choix de l'écriture, il s'est imposé qu'on voulait pas faire quelque chose de strictement documentaire aussi. En fait, je pense que ça a aidé aussi à garder un certain recul, puisque c'est ce qu'on est en train de vivre aussi. Donc, arriver à parler de ce qu'on vit au moment où on le vit, c'est pas évident. Donc, je pense que la fiction permet aussi de nous aider à sortir un peu d'un rapport trop direct, et du coup, de jouer avec l'expérience qu'on est en train de vivre.
Et comment vous avez imaginé votre duo à vous, une écriture à deux voix?
Bah, comme on a pu l'entendre dans le jus d'orange, on a souvent eu des projets à deux, souvent avortés. Mais ça s'est imposé que la tension qui se crée à travers nos deux regards nous semblait intéressante, qu'il y avait on a eu envie aussi de se construire un peu comme deux personnages différents, de faire entendre de faire entendre aussi l'histoire d'une découverte à deux et d'une aventure à deux, parce que c'est aussi ça qui est le socle de la richesse aussi de ce qu'on vit, quoi. Ça donne de l'épaisseur de l'avoir vécu à deux et de traverser à deux, d'en discuter, d'avoir toujours ce rapport réflexif aussi par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on regarde, ce qu'on découvre ici, ce qu'on entend.
Et c'est Diffie Mariani qui a réalisé la série et qui vous a rejoint à Orange, avec qui vous avez monté ensuite les épisodes. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait d'avoir cette liberté de construire les choses par étapes et en épisodes, en série, pour dans l'écriture? Qu'est-ce que ça a suscité, provoqué?
Je pense que ce qui n'était pas évident, c'est qu'il y avait beaucoup de thématiques et beaucoup de choses qui se mêlaient entre nos interrogations personnelles et la ville d'Orange. Et du coup, mêler ces deux thématiques qui en ouvrent mille autres, c'était pas mal d'avoir des épisodes pour justement concentrer sur des choses un peu plus précises et du coup faire des petites unités qui ont leur petit univers et une question traitée à chaque fois, et de pas se perdre en fait dans une multitude de fils. Oui, je pense que ça nous a permis aussi d'avoir une certaine liberté dans le ton aussi, de construire des épisodes qui sont pas tous homogènes dans le ton. L'épisode par exemple où Cécile et Gérard témoignent, c'était un vrai choix, je pense, aussi d'écriture, de le faire volontairement grave et brut, et de nous mettre en retrait à ce moment-là. Enfin voilà, on a eu cette liberté aussi de construire des petites unités différentes.
Vous l'avez fait écouter à Orange?
Ce qu'on a fait écouter à Orange, oui.
Oui. Enfin,
à certaines personnes.
Et alors, quelles étaient les réactions?
Pour la plupart, les gens étaient assez contents. Donc, y a Cécile et Gérard qui l'ont écouté. Il y a aussi quelques autres personnes qu'on connaît ici qui ont trouvé ça très bien. Mais après, c'est plutôt le petit... C'est les gens qui font partie de la petite résistance d'Orange qui ont écouté ça.
Merci beaucoup Cléo Cohen et Jeanne Filion. On se retrouve demain dimanche à 20h pour une nouvelle expérience, l'Empire bicéphale. On partira en Roumanie avec Amandine Cazadamon et Iline Castille. Elles proposent une fiction d'anticipation politique, un atelier de création radiophonique réalisé avec Annabelle Brouard dans le cadre de la saison France-Roumanie. En attendant, il est bientôt 22h, vous écoutez France Culture, la création ça continue, place maintenant à la fiction.